Les partiels arrivent bientôt et nous continuons notre cours de sémiologie, c'est-à-dire étude des symptômes, des signes, des indices, des marqueurs qui permettent de dire si un individu ou une communauté est en bonne santé spirituelle. Et c'est dans le parcours vitalité que nous avons entrepris. Un genre d'électrocardiogramme pour voir l'état du cœur, de notre cœur pour Dieu. Alors le cœur est un organe vital et quand on l'examine, on a une idée un petit peu de la vitalité de la personne ou de la communauté. Quels sont les marqueurs d'une église en bonne santé, d'un chrétien qui suit le Christ et qui répond à l'appel qu'il lui a lancé? Alors nous avons déjà vu dans cette série, premier indice, la parole de Dieu au centre de la vie de l'individu, du chrétien, mais aussi de la communauté. Nous avons vu également une marche avec le Christ qui transforme la vie. Nous avons également vu une détermination dans l'évangélisation pour l'évangélisation. Ça, c'est l'indice, le marqueur d'une vie saine et missionnaire, d'une vie chrétienne en bonne santé. Et nous avons vu aussi la compassion pour le monde, un cœur qui compatit, qui souffre avec, qui vient en aide au monde. Une ouverture aussi sur le monde, indice 5, pour la mission, un intérêt pour le monde de ce qui se passe parfois au loin. On a répondu à la question, pourquoi s'intéresser au monde alors qu'on a tant de choses à faire ici ou dans sa vie personnelle? Et il y avait des réponses. Et puis aujourd'hui, pouf, feu d'artifice, une communauté chrétienne attirante. Avec comme texte de base celui que nous avons lu tout à l'heure, celui de Actes 2, 41 à 47, qui nous parle de la première église de Jérusalem, la première communauté chrétienne qui est tout feu, tout flamme. Il faut dire que le feu vient juste d'être allumé. On est juste après la Pentecôte. Et on peut dire aussi que nous avons là une église au top de sa vitalité. Alors, il ne faut certainement pas l'idéaliser, cette première église, parce qu'on sait que quelques semaines après, il y a un gros problème qui va arriver, un grand mensonge dans l'église avec Ananias et Saphira. Quelques mois plus tard, il y aura de vives tensions entre chrétiens de différentes cultures dans cette église. Quelques mois encore plus tard, il y aura de grands conflits entre deux serviteurs de Dieu dans cette même église de Jérusalem, Barnabas et Paul. Des tensions, ce qui est tout à fait normal dans les églises et qui permettent à celles-ci d'avancer, des conflits, des tensions, des réconciliations aussi. Donc on ne va pas idéaliser l'église, cette première église de Jérusalem, mais on ne veut pas non plus passer à côté de l'enseignement que peut nous apporter cette description de cette première église. Et surtout quand on observe la fin du passage et qui nous dit « Et le Seigneur ajoutait ». Chaque jour, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Il semble que cette première Église répondait vraiment à l'appel du Seigneur que lui-même avait lancé, à savoir de faire des disciples parmi toutes les nations. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église de Jérusalem ceux qui étaient sauvés. Et donc, elle était réellement saine et missionnaire, cette Église de Jérusalem. Elle répondait à sa mission, à savoir d'attirer ses contemporains à l'Évangile, comme c'est aussi l'objectif de cette communauté ici à Pau. Alors comment le faisait-elle? Eh bien, en étant une communauté attirante, pas attractive, avec des artifices d'attraction, mais attirante, qui donnait envie. Et quand on regarde le texte, vous l'avez lu, enfin vous l'avez entendu, comme moi, on ne voit rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de grands moyens, il n'y a pas de rite particulier, il n'y a rien de très flamboyant. Il y a quatre éléments qui sont évoqués, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Alors dit comme ça, c'est un peu formel. On pourrait comprendre une église attirante, quand on écoute la prédication, on se rassemble pour le culte, on célèbre la Sainte-Cène et on va à la réunion de prière. Est-ce que ça donne envie, ça ? Et la traduction « parole de vie » est intéressante pour nous rafraîchir un petit peu la perception de ce qui est dit. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. C'est déjà beaucoup plus vivant. En plus, j'y ai mis un peu de ton. Mais on évoque une communauté qui vit ensemble un peu comme une famille. Ils étaient comme des frères et des sœurs. Et dans la famille, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on se rassemble pour raconter les histoires de la journée, pour entendre les histoires des anciens. Aussi, on passe du temps ensemble, on mange ensemble. Et comme c'est une famille spirituelle, on prie ensemble. C'est vivant et c'est ça qui était attirant. Et ce qui frappe également dans le descriptif, c'est le naturel et la simplicité. Ils prenaient les repas dans les maisons d'un cœur simple. Ce n'est pas encore structuré. Même le fait de vendre ses biens pour en partager le fruit entre tous semble spontané. Tout se passe naturellement dans le quotidien. Chaque jour, d'un seul cœur. Voilà, chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. C'est ce côté simple, spontané, naturel, qui fait l'attirance. Parce que l'essence de l'Église n'est pas dans les structures ou dans les rites, mais dans les relations. Une relation d'abord authentique avec le Christ et une relation simple et authentique, elle aussi, avec les autres. Et qu'est-ce que ça produit ? Une Église rayonnante et attirante. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à cette communauté ceux qui étaient sauvés. Et il me semble que nous avons là la première leçon de ce texte. Pour être une communauté chrétienne attirante, l'Église doit être un lieu où règne l'amour fraternel. Tous les croyants, on est appelés à vivre en communion les uns avec les autres. Vous vous souvenez, c'est la fameuse koinonia. Et au verset 44, tous les croyants vivaient unis entre eux. Et vous savez, parmi les dernières instructions de Jésus à ses disciples, avant d'être arrêté, il va leur dire ce commandement, « Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » On le connaît ce texte. Et ce qui est décrit dans le texte d'Acte 2 est un écho direct à ces paroles de Jésus. Il règne un véritable amour les uns pour les autres et ça se voit de l'extérieur. Les gens voient qu'il se passe quelque chose dans cette communauté. Et dans le commandement de Jésus, il y a à la fois l'appel à l'amour les uns pour les autres et la promesse que cet amour sera en lui-même un témoignage pour le monde. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais pour cela, il faut que l'Église ne soit pas un bunker ou un camp retranché, mais un lieu ouvert, une communauté visible. Pour que les gens voient quel amour nous anime, il ne faut pas que cet amour s'exerce en vase clos, mais qu'il s'exprime aussi vers l'extérieur. Il faut surtout qu'il y ait un véritable amour, ou que l'amour entre nous soit un véritable amour. Ce ne sont ni les bâtiments, ni les structures, ni l'histoire, ni la tradition, ni la liturgie d'une Église qui sont déterminants, mais c'est l'authenticité de la foi qui se traduit dans un amour vrai, l'expression concrète dans nos relations de l'amour de Dieu à l'œuvre en nous. Alors dans le titre, j'ai ajouté un amour à toute épreuve. Un amour qui résiste à l'épreuve de la différence. Un amour qui résiste à l'épreuve de la durée. Un amour qui résiste à l'épreuve de la lassitude, peut-être. Mais aussi un amour qui résiste à l'épreuve de la famille. Parce que c'est une épreuve, les relations dans la famille. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne choisit pas sa famille. Et donc l'amour à l'épreuve de la famille. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et l'amour qui est évoqué ici a manifestement un caractère familial. Ils vivaient ensemble comme des frères et des sœurs. Parce que dans l'Église, on appartient à une même famille, celle des enfants de Dieu, la famille des enfants adoptifs de Dieu, le Père. Et ça, ce n'est pas facile, parce qu'on ne les a pas choisis, ces enfants, ces frères et ces sœurs. Et on aimerait parfois que l'Église soit plutôt faite d'amis que l'on a choisis, plutôt que des frères et des sœurs que l'on n'a pas choisis. On aimerait plutôt choisir son Église selon ses affinités. On choisirait ceux qu'on va aimer dans l'Église et on oublierait les autres. Mais ce serait passer à côté du grand défi de l'amour chrétien, c'est de justement d'aimer des personnes que nous n'avons pas choisies. Et Laurence en a parlé tout à l'heure de cet assemblage de gens différents. Je vous parle d'une église au nord de l'Adour, même si beaucoup de choses se passent dans cette église, je ne peux pas en parler parce que vous êtes là, mais au nord de l'Adour, c'est loin et donc il y a prescription. Mais j'étais dans un groupe de maisons il y a bien longtemps quand même, c'était vraiment très au nord de l'Adour. Et j'étais là dans ce groupe de maisons avec un ami, un frère qui s'appelait Bernard Vandenbloek. Oui, Bernard Vandenbloek, en un mot, un nom très belge. Moi, c'est en trois mots et c'est hollandais. Mais Bernard VDB, il était complètement différent de moi. Tout nous séparait. Il était royaliste. Il était flamand. Il avait une vision assez étroite des choses, de l'Église aussi. On était tout le temps en désaccord dans les PEP. On appelait ça des PEP. Et les gens dans ces PPP nous regardaient comme un match de tennis. Pop, pop, pop. On n'était jamais d'accord. Mais au fur et à mesure, on s'est retrouvés unis, amis, parce que ce n'était pas notre opinion politique qui était déterminante, ni notre vision théologique, ni même notre vision d'Église, mais ce qui était déterminant, c'était notre unité de fait en Christ. Ce qui nous unissait et pourquoi on s'aimait, c'est parce qu'on avait le même Père, le Père d'amour, qui nous avait pris tous les deux comme enfants adoptifs. Et on pouvait dès lors se regarder l'un l'autre avec les yeux de la grâce, de cette grâce de Dieu qui nous avait touchés, chacun individuellement, mais aussi ensemble. Ensemble, avec Bernard, on remercie depuis, on a encore des contacts, le Seigneur d'avoir permis de nous rencontrer dans son église locale, dans cette expression locale de la famille de Dieu, avec des frères et des sœurs qu'on n'a pas choisis, mais avec lesquels nous sommes unis par Dieu le Père et par son Fils, son seul Fils naturel, Jésus-Christ. C'est ça l'Église, une famille où on s'aime malgré les différences ou par-delà les différences. Alors cela ne veut pas dire que dans l'Église il ne peut pas y avoir des affinités particulières ou des amitiés avec certains et pas avec d'autres, mais ça replace quand même l'amour fraternel au milieu du village. Tout comme l'unité, il ne naît pas de nos affinités personnelles, mais de notre appartenance à Jésus-Christ. Et j'aime bien le texte d'Éphésiens 4, hein, que nous avons lu tout à l'heure aussi. C'est la plus longue phrase du Nouveau Testament. C'est Paul qui l'a écrite, et c'est la plus longue. Et on ne comprend pas tout, les articulations qui s'élèvent et tout ça, mais la fin est extraordinaire. Il est où le... et qui s'édifie, ce bâtiment, l'édifice de l'Église, à la stature parfaite du Christ, etc., qui s'édifie lui-même dans l'amour. Ça finit par l'amour. Deuxième élément qui ressort de ce texte et qui fait de cette communauté attirante et cette façon de vivre cette communauté, et justement la façon de vivre cette communauté et la façon qu'ils ont de la vivre, c'est de la vivre en tout temps ou de tout temps. Je ne sais pas très bien comment le dire. Mais je prends le verset 46 avec ce mot, ces deux premiers mots, « chaque jour ». Ils se réunissent fidèlement dans le temple et aussi ils partagent dans les maisons, chaque jour, en tout temps. Ce n'est pas une communauté du dimanche, comme les sportifs du dimanche. C'est assez péjoratif, hein, sportif du dimanche. Mais une communauté qui déborde de ses cadres et de ses lieux de culte. Chaque jour, alors vous me direz, il y avait l'enthousiasme du début, hein, c'est l'effet Pentecôte, hein, et qui aujourd'hui il est difficile et même impossible de faire la même chose avec nos rythmes de vie, avec notre travail, avec notre vie de famille. Et vous auriez raison, il ne s'agit pas de faire du copier-coller et s'obliger à se voir chaque jour. Il n'empêche, ce chaque jour nous interpelle malgré tout. et sans aller jusqu'à se voir chaque jour, avouons qu'on peut difficilement justifier bibliquement la pratique de l'Église du dimanche. Comment être véritablement une famille spirituelle en ne se voyant au mieux qu'une fois par semaine pendant 1h30, 2h, si on reste un peu? C'est impossible. Alors bien sûr, il faut à chacun trouver son propre rythme, adapté à nos diverses obligations, notre réalité moderne. Mais on ne peut pas se contenter du minimum syndical. Le culte du dimanche matin, sous peine de, et je lis pour ne pas rater, de rabougrissement de notre foi, qui se nourrit de la communion fraternelle. C'est une nécessité. Cette communion, la communauté doit s'étendre au-delà du dimanche. Alors, il y a des possibilités avec nos groupes de maison, les PPP, aussi les équipes de service, les répétitions de musique, etc. On peut créer d'autres choses, on peut prendre des initiatives nouvelles, on peut être inventif, mais on ne peut pas être une église du dimanche, ni un chrétien du dimanche. C'est une question de priorité, c'est une question de témoignage, c'est une question de cohérence. Chaque jour, ils étaient ensemble et ils vivaient leur foi ensemble. Le dernier point pour une église attirante, qui était certainement cette première église de Jérusalem, elle vient au tout dernier verset du paragraphe. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Tout le monde les aimait, littéralement. Ils trouvaient grâce, charis, aux yeux du peuple, c'est-à-dire des gens autour d'eux, de leur environnement, de leur entourage. Alors le texte ne permet pas ou la grammaire, la syntaxe, de faire le lien direct entre la louange et le fait qu'ils étaient appréciés par tout le monde. C'est plutôt, il est plus juste de penser qu'il s'agit de tout l'ensemble, de la manière qu'ils avaient de vivre leur foi, avec l'amour fraternel, avec les rencontres, dans les maisons, au temple, dans la louange aussi. La simplicité, on en a déjà parlé, mais aussi par peut-être l'authenticité de leur célébration. Vous savez, la religion juive à l'époque était tellement codifiée, tellement ritualisée. Et je pense que le monde, les personnes autour de cette première église voyaient très bien le contraste entre cette religion juive ritualisée et cette foi simple et authentique qui apparaissait clairement à tous ceux qui s'en approchaient de cette première église. La façon que les premiers chrétiens avaient de vivre leur foi et de célébrer faisait envie. Nous avons eu dans une église un gars du GIGN, anciennement du GIGN, un dur à cuire, et qui venait à l'église et qui nous racontait. Alors à l'église, il était GIGN, mais il nous racontait, quelques mois après, il nous a raconté que plusieurs dimanches, quand il rentrait dans la région parisienne, il pleurait dans sa voiture. Je ne vais pas dire comme une, mais pas comme un mec du GIGN, quoi. Tellement il avait été touché par le culte. La célébration des chrétiens l'avait touché au plus profond de son cœur de militaire. Je me disais que comme les deux premiers points, l'amour et l'Église tous les jours, ou la communauté tous les jours, cette foi qui fait envie nous renvoie à nous-mêmes, à chaque chrétien, à notre foi personnelle, à une question: est-ce que ma foi fait envie aux autres? Et en se posant cette question, il ne s'agit pas de tomber dans la problématique du toujours plus, du toujours mieux, de la culpabilité, ou pire, dans l'artificiel, où se dire on va jouer la comédie, et il faudrait que je sourie plus, que je me mette mon masque de chrétien tous les dimanches matins avec un grand sourire sur le masque. Non, rien de cela, mais simplement se poser la question de sa propre relation avec Dieu, de la profondeur, de l'authenticité de ma relation avec ce Dieu d'amour qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui est la source de la joie, comme le disait Laurence tout à l'heure aussi. Une joie pas toujours exubérante, mais sereine, a-t-elle dit, mais ou calme. Une joie bien différente que le monde peut donner ou que la société peut procurer. On relit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de beaucoup de choses et on peut s'attrister d'un nombre au moins égal de choses. Mais là, la Bible nous invite à nous réjouir dans le Seigneur, et le lieu particulier de cette joie particulière, c'est dans le Seigneur ou dans ce qu'il représente pour nous en termes de salut, en termes d'espérance pour nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et cette joie dans le Seigneur est une joie à long terme, une joie qui dure jusque dans la vie éternelle. Et c'est cette joie-là qui fait envie, ou qui pourrait faire envie. Et ce genre de question, est-ce que ma foi fait envie, nous appelle non pas à nous culpabiliser, mais à recentrer notre joie sur celui qui peut nous la donner dans une autre dimension. Un amour à toute épreuve. Une communauté de tous les temps. Une foi qui fait envie. Et pour terminer, j'aimerais revenir à l'impression globale produite par ce texte, la spontanéité et son naturel. On n'est pas du tout dans la contrainte, là. Il n'y a pas « il faudrait que » Faucon ou Yaka. Il faudrait qu'on s'aime plus les uns les autres. Il faut qu'on se voit en dehors d'une nuance. Il faut qu'on donne envie. On n'est pas non plus dans la recette de cuisine aux ingrédients pesés d'avance. On est dans la vie. Et pas n'importe laquelle, la vie de l'Esprit. En réalité, c'est le Saint-Esprit. Ou c'est par le Saint-Esprit que les premiers chrétiens ont été amenés naturellement à vivre une réelle communion fraternelle et être ainsi une communauté attirante. On est dans l'effet Pentecôte. On est dans l'œuvre du Saint-Esprit. Et alors que nous allons fêter les 25 ans de cette Église, notre prière, nos prières, et que le Saint-Esprit continue de faire vivre cette Église et que le Saint-Esprit puisse produire en chacun d'entre nous son fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, l'amour, l'agapé, l'amour fraternel aussi. La joie, on en a parlé, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout y est, une communauté chrétienne attirante, une production cinématographique, non pas cinématographique, une production du Saint-Esprit, un fruit de l'Esprit. On l'a chanté tout à l'heure, le feu dans mon cœur. L'œuvre de l'Esprit dans mon cœur. Notre prière est que le Saint-Esprit nous amène à rechercher toujours cette relation vivifiante avec Dieu. Alors notre amour les uns pour les autres sera naturellement à toute épreuve. Nous vivrons l'Église au-delà du dimanche et notre foi fera envie. Nous vivrons vraiment l'Église comme une famille, une communauté bienfaisante, un lieu de grâce. Ce sera notre prière pour les 25 ans, les prochains 25 ans, ou les 25 ans à venir, si Dieu nous prête vie. Amen.